Apocalypse, chapitre 5 et verset 8. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Amen. Amen. J'ai choisi ces trois textes, pour que l'on remarque ensemble que de la Genèse à l'Apocalypse, on a pris encore un texte dans l'évangile de Matthieu, et on aurait pu prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes dans la Bible pour voir et vérifier que le mot « saint », la notion du « saint » dans la parole de Dieu est vraiment employée de nombreuses fois. Elle est omniprésente. Dans toute la Bible, il est parlé du « saint ». Et on pourrait être étonné, beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont lu la Bible pour la première fois, arrivés dans Exode, Nombre, Lévitique, etc., ils ont commencé à être surpris par toute ce rappel, ces notions de saint, de sacrifice, toutes ces choses, et ça a pu peut-être freiner quelques-uns. Et j'ai vraiment à cœur ce soir de voir avec vous, trois valeurs du saint dans la Bible. Et on va parler tout particulièrement, bien sûr, du saint de Jésus. L'effet du sang de Jésus. Peut-être quelqu'un est nouveau et j'espère que ça pourra l'aider à comprendre pourquoi il est tant parlé de sang dans la Bible. Peut-être quelqu'un a connu le Seigneur depuis de nombreuses années et a toujours été un peu frappé par cette présence dans la parole de Dieu. On dit que c'est la parole d'un Dieu d'amour et pourquoi il est tant fait une notion de sacrifice, de sang, etc. Et puis j'aimerais vraiment qu'on partage ça ensemble. J'ai regardé un petit peu à chaque fois que le mot saint était dans la Bible. Dans combien de livres le mot saint était dans la Bible? Est-ce que vous savez dans combien de Bibles à peu près? Comment? De Bibles dans la Bible? Non. De fois le mot saint ou dans combien de livres de la Bible le mot saint est employé? 41 livres. 41 livres sur 66. Presque les deux tiers de la Bible parlent du saint. C'est quelque chose d'impressionnant. Et le livre qui bat tous les records, c'est le Lévitique. 66 fois, il est parlé du sang. Si vous le lisiez, vous comprendriez pourquoi. Il est fait notion des pratiques de sacrifice. De sacrifice. Trois valeurs du sang dans la Bible. Le sang qui est une preuve. Le sang qui est un prix. Et le sang qui est une marque. On va voir ces trois choses ensemble. Je vous invite maintenant à ouvrir donc dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, chapitre 9 et verset 16. Pourquoi le sang de Jésus est une preuve? Une preuve de quoi, d'après vous? Le sang de Jésus est une preuve d'amour, certes. C'est vrai. Une preuve de quoi? Quand quelqu'un perd son sang, qu'est-ce qui lui arrive? Il meurt. Le sang de Jésus est une preuve que Jésus est mort. Beaucoup de personnes croient que Jésus est descendu de la croix et que quelqu'un d'autre l'a remplacé. Ça existe. Il y a une religion qui dit cela, qui affirme cela. Beaucoup de personnes croient que c'est une fable. Mais la parole de Dieu, Dieu lui-même dit dans la Bible que Jésus est bien mort. Et c'est important pour nous, on va le voir en faisant cette lecture dans Hébreux chapitre 9, verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Pourquoi c'était important qu'il y ait la preuve de la mort de Jésus? Eh bien que pour que tout le testament, toutes les promesses de Dieu puissent nous être offertes. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un testament, pour la plupart? Qu'est-ce que c'est un testament? C'est quelqu'un, avant qu'il meure, il laisse une lettre, une sorte de lettre, où il marque, voilà, je lègue ceci à telle personne. Ce qui m'appartient là, ce que j'ai laissé, bien je voudrais que ça aille à telle personne, à tel endroit, les choses se passent comme ci, comme ça. Il y a toutes sortes de choses qu'ils sont donnés. Voilà. Et je me souviens de cette petite histoire. Pendant la guerre, une femme voulait aller à La Réunion. Et elle avait peur de croiser à chaque fois des barrages. Et puis un jour, alors qu'elle va à La Réunion, arrive ce qui devait arriver, elle se retrouve devant un barrage. Et puis on lui dit, madame, qu'allez-vous faire ? Il ne fallait surtout pas qu'elle dise qu'elle allait dans une église, dans temps de persécution. Et elle a d'un coup eu la pensée de dire, je vais lire le testament de mon frère. Je vais lire le testament de mon frère. Ah bon ? Eh bien madame, bon courage, on espère qu'il vous aura laissé beaucoup de choses, hein. Bon courage, hein. Puis elle va à La Réunion, elle assiste à la lecture de la Bible, etc. Et puis elle rentre chantant, toute heureuse, tout ça. Et puis le même barrage était encore là, elle lui dit, alors madame, ça a été, vous avez gagné quoi ? Vous avez eu beaucoup de choses ? Ah, il m'a tout donné. Merci Seigneur. Oh ! Et puis elle a vite filé. Voyez ? La parole de Dieu, c'est un testament. Il nous est parlé de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Avant les évangiles, avant Matthieu, Marc, Luc, Jean, avant que Jésus vienne sur la terre, Dieu nous a laissé, dans tous les livres qui précèdent les évangiles, des promesses. La promesse d'un rédempteur, d'un sauveur pour l'humanité qui se perd. D'un sauveur pour l'humanité qui est plongée dans son péché, qui est séparée de Dieu. Dès le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 15, dimanche j'en faisais encore mention, Dieu a déjà donné une promesse. Et il disait à Satan, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il était déjà là parlé à Satan de Jésus-Christ, qui allait mourir et donner sa vie sur le bois de la croix. Et la promesse que le monde allait être sauvé par Jésus. Et tout l'Ancien Testament nous parle de ce Jésus qui allait venir, de ce Messie, ce Sauveur qui allait venir pour nous pardonner et pour payer pour nos péchés. Alors oui, heureusement que le sang de Jésus a coulé à la croix, car il nous ouvre les portes, il nous ouvre le sceau de ce testament. Et depuis que Jésus est mort, nous pouvons bénéficier de toutes les promesses qui y sont inscrites. Et Jésus a appelé ça la bonne nouvelle, l'évangile. Et l'évangile, c'est ce qui nous permet de croire, ce qui nous donne accès au salut, puisque lorsqu'on croit dans la bonne nouvelle, eh bien on peut être pardonné de tous nos péchés. Alors voilà, le sang de Jésus est d'abord, ce soir je relèverai que ces trois choses, mais d'abord une preuve de la mort de Jésus. Et il nous est dit dans les épîtres encore que Jésus est venu présenter son sang à son Père, comme preuve de sa mort, comme preuve de tout ce qu'il a fait sur la terre. On se souviendra aussi de l'affaire de Joseph. Hein ? Lui aussi, on a mis du sang sur sa tunique pour faire croire au Père qu'il était mort. Vous vous souvenez ? Ses frères étaient jaloux, le père avait donné une belle robe multicolore, etc. Et puis ils lui ont pris sa tunique, ils l'ont vendue, et pour faire croire au père qu'il était mort, ils ont tué un animal. Ils ont mis le sang de l'animal sur la tunique, ils ont présenté la tunique avec le sang au père. Et le père a vraiment été convaincu que son fils était mort. Le sang, c'est une preuve, la preuve d'une mort. Il fallait constater la mort de Jésus pour que le testament puisse être à notre bénéfice aujourd'hui. Dans Jean, chapitre 19, au verset 31 à 34, il nous est dit que Jésus est bien mort. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, je vous le lis, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre. Donc, brigand qui avait été crucifié avec lui, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Il y avait du sang. Et il nous est dit qu'ils ont constaté, les ennemis ont constaté la mort de Jésus. Jésus est bien mort, mais la parole nous dit aussi qu'il est ressuscité. Gloire à Dieu, il est vivant pour nous secourir encore aujourd'hui. Et quand Jésus est mort sur la croix, le sol a tremblé, les sépulcres se sont ouverts, le voile s'est déchiré. Même dans le ciel, il y a eu des témoins de la mort de Jésus. Amen. Amen. Dernière lecture, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, c'est dans Colossiens chapitre 3, verset 23, ça nous parle d'un héritage, parce que si nous avons déjà une part du Testament qui est valable et qu'on peut se saisir aujourd'hui, il reste encore des choses à découvrir, un héritage. Et on a chanté beaucoup de chants qui nous parlent de cette patrie céleste, de ce jour où on verra Jésus face à face. Ça fait partie du Testament qui nous est laissé. Et tout ce qui suit les évangiles nous explique quelles sont les promesses que Dieu a pour nous, qu'est-ce qui nous attend dans le ciel à tous ceux qui ont fait la paix avec Jésus et avec Dieu. Deuxièmement, le sang, qui est aussi un prix. Le sang, c'est un prix. Et justement, ce testament annonçait le pardon des péchés. Je l'ai dit, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous pardonner de nos péchés. Et comment pouvions-nous être pardonnés de nos péchés? On va faire deux lectures. Donc dans Hébreux toujours, au chapitre 9 et au verset 22, il est dit que presque tout, Hébreux 9, 22, presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pourquoi fallait-il que quelqu'un meure pour que nous soyons pardonnés de nos péchés? La deuxième lecture, c'est dans Romains, chapitre 6 et verset 23. Beaucoup de nous connaissent par cœur ce verset. Romains, chapitre 6 et verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La mort de Jésus, son sang versé, c'était le prix qu'il fallait payer pour sauver notre vie. Pour sauver ma vie, il fallait qu'une autre vie soit donnée. Pour sa vie, sauver la vie de pécheur, il fallait que quelqu'un donne sa vie, ses vies pour vie. Et pour échapper à la mort, pour échapper à l'enfer, il fallait que Jésus subisse la mort, que Jésus subisse l'enfer à la croix. Il nous est dit que le jour de la croix, il y a eu des ténèbres pendant plusieurs heures. Jésus était pendu au bois. Il y a eu des ténèbres. Le ciel s'est déchiré. Dieu a détourné son regard. Jésus pouvait dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on sait que l'enfer, c'est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Jésus a subi des angoisses dans le jardin de Gethsémané. Jésus a subi toutes sortes de souffrances sur la croix. Et c'est ce qui attend tous ceux qui ne veulent pas de cette grâce, de ce pardon que Jésus a payé si cher. Le sang de Jésus, c'est le prix pour mon péché et pour ton péché. C'est le prix pour tous les péchés du monde. Il nous est dit que Jésus est mort pour beaucoup. Pour beaucoup. Pourquoi pas pour tous? Parce que tous ne voudront pas de lui. Mais son sang quand même est valable. Sa mort est valable pour tous les hommes, tous ceux qui sont prêts à croire. Malheureusement, beaucoup s'en priveront. Et vont aller en enfer, comme il a été dit tout à l'heure, comme cet homme qui n'a pas fait cas de Dieu dans sa vie, qui a préféré jouir de ses biens, et une fois arrivé en enfer, aurait bien aimé avoir une minute pour retourner sur terre et faire la paix avec Dieu. Alors n'attendons pas le dernier moment, réalisons que Jésus a payé cher. Pourquoi cette notion de sang encore? Eh bien parce que dans Lévitique, au chapitre 17 et verset 11, pourquoi il est parlé si souvent du sang? Parce que le sang représente tout simplement la mort de Jésus. Quand il est parlé que Jésus a versé son sang, c'est que Jésus est vraiment mort. Comme on l'a dit, c'est une preuve. Et Lévitique chapitre 17 verset 11, il est dit ceci, Dieu avait déjà dit ça. La vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Beaucoup de personnes ont mal compris ce texte. Certaines religions disent aussi qu'il faut surtout pas faire de transfusion parce que l'âme est dans le sang. Et ils confondent l'âme et l'esprit. Ils pensent que l'esprit de l'homme, ce qui est éternel, il est dans le sang. Alors que, en fait, c'est simplement parce qu'en grec comme en hébreu, le même mot âme veut dire aussi vie. L'âme et la vie, c'est la même chose. Et il dit que la vie est dans le sang. Vous savez très bien que quand vous étudiez un peu l'anatomie du corps humain, le côté scientifique, médical, on a quelques litres de sang dans notre corps, mais on n'en a pas à l'infini. Et si on est en carence, si on perd notre sang, on fait une anémie d'oxygène, par exemple. L'oxygène n'arrive plus à nos muscles, puisqu'il est transporté par les globules rouges, par le sang. Et si je n'ai plus assez de sang, l'oxygène n'arrive pas. Si je perds plusieurs litres de sang, ben, il m'en reste plus. Parce que je crois que dans le corps humain, il y a 2 litres et demi, 3 litres, je ne sais plus. 6 ou 7. Bon, mais ce n'est pas des milliers non plus. Hein. Je me souviens, Stéphanie m'en parlait, et elle me rappelait, c'est un enfant qui a 2 litres et demi, je crois. Stéphanie me parlait quand elle a accouché. Moi, je croyais qu'un accouchement, c'était super clean, propre, en plus dans un hôpital. Vous voyez, je me disais, c'est vraiment quelque chose de beau à voir, l'enfant va sortir. Et puis d'un coup, j'ai vu qu'il y avait du sang dans tout ça. Hein. Quand l'enfant sort, eh bien, il n'y a pas que l'enfant, tout propre, lavé, brushing, tout ce qu'on veut. Non, il est pas tout propre. Hein. Et il y a beaucoup de sang. Et c'est vrai, cette pensée qui est venue à cette infirmière, c'est on va contrôler quelques jours après, ou quelques jours après, votre taux de sang, je ne sais plus, enfin de, vous savez, les vitamines, je ne sais pas, tout ce qu'il faut dans le corps, on va contrôler en tout cas. Et puis elle a dit, tiens, vous avez déjà renouvelé tout ce que vous avez perdu. C'est une bonne nouvelle. Et certains sont en anémie. Il leur manque des choses, il leur manque des vitamines, il leur manque ce qu'il leur faut pour vivre, pour être en bonne santé. On se souvient de cette femme à la perte de sang. Vous vous rappelez? Cette femme toujours en perte de sang. Pour nous, bon, à la limite, on pourrait imaginer qu'elle perd du sang, point barre. Mais en fait, c'est sa vie qu'elle perdait, c'est sa santé. Elle devait être toujours épuisée. Peut-être son visage était pâle, j'en sais rien. En tout cas, elle devait être mal. La tête qui tourne de temps en temps, quand on perd tout le temps du sang, on est en anémie. Et cette dame était là, elle a dépensé tout son argent dans les médecins. Et elle n'allait pas de mieux en mieux, au contraire. Il nous est dit qu'elle allait de mal en pire. Les médecins n'ont rien pu faire pour elle. Mais Jésus est passé par là. Et elle a touché le bord du vêtement, et elle a pu être guérie instantanément. Gloire à Dieu. Quand on perd notre sang, on perd notre vie. Et Jésus a dû donner son sang, verser son sang sur la croix, pour donner sa vie. Et il y a ses mains qui ont été clouées. Son sang a coulé par ses mains. Sa tête était complètement meurtrie par la couronne d'épines qui a coulé. Il est même dit que dans le jardin de Gethsémané, avant même d'être meurtri dans son corps, des grumeaux de sang coulaient de son front, tellement il avait de l'angoisse, il a failli mourir d'angoisse. Son cœur allait peut-être lâcher. Il s'est dit qu'il y avait déjà une telle pression, et quand médicalement parlant, on étudie ce phénomène du sang qui sort par le front, c'est qu'on ne va pas bien du tout. Et notre cœur ne va pas bien. Jésus a failli mourir dans le jardin de Gethsémané, car il subissait les angoisses de l'enfer, les angoisses que certains peut-être connaîtront s'ils ne veulent pas de Jésus dans leur vie, s'ils ne veulent pas faire la paix avec Dieu. Oui, Jésus a subi ces choses. La croix, cette couronne d'épines, ses mains percées, ses pieds percés, ses coups de fouet qui ont meurtri son dos, le sang coulé par le dos, et puis cette lance qui a été plantée dans son côté. Le sang de Jésus a été versé abondamment. Il en a perdu la vie. Et il nous est dit que son sang nous lave de tout péché. C'était ça le prix. Prenez avec moi 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Le sang de Jésus qui a coulé sur le bois de la croix parle de sa mort, et son sang, lorsqu'on croit dans son efficacité, dans sa valeur, qu'il est le prix qu'il fallait payer pour sauver nos âmes, alors il est dit qu'il nous lave de tout péché. Et nous pouvons alors nous présenter devant Dieu, qui lui est saint. Beaucoup de fois dans nos prières, ou même dans nos chants, on dit que Dieu est trois fois saint. Alors, on ne va pas tergiverser sur les mots, mais il est dit qu'il est saint, saint, saint. C'est-à-dire parfaitement saint. Il n'y a pas plus saint que lui, il n'y a pas saint même comme lui. Il est parfaitement saint. Et quelqu'un souillé par son péché ne peut pas se présenter devant lui. Les yeux de Dieu ne peuvent voir la souillure, le péché, ne peuvent accepter dans sa présence quelqu'un de souillé par son péché. C'est pourquoi Jésus a dû payer pour qu'on soit lavé de notre péché. Et quiconque aujourd'hui croit en Jésus, quiconque croit dans lui, est lavé de tous ses péchés, est lavé par le sang de Jésus de tous ses péchés, et peut alors se présenter devant Dieu, puisqu'il n'est plus souillé, mais il est lavé. C'est des choses assez simples, mais qui demandent notre foi. Pour sauver la vie des pécheurs, il fallait que Jésus donne sa vie. Il a fallu que Dieu s'identifie à nous, qu'il prenne notre place, qu'il meure pour nous. Voilà. Et en revanche, pour être au bénéfice de ce sacrifice, de ce prix qu'il a payé, il faut que nous, on s'identifie à lui. Qu'on considère que c'est nous qui méritions la mort, mais qu'il a payé pour nous, donc la facture est payée. Et qu'aujourd'hui, on a la grâce de pouvoir être pardonné simplement par la foi. Merci Jésus, merci Seigneur. Amen. On se souvient de cette petite histoire aussi. Un jour, il y avait deux garçons qui ont grandi ensemble. Ils étaient très très amis, comme les deux doigts de la main. Puis la vie les a séparés. Je ne sais plus si c'est un déménagement ou quoi, je ne sais pas. En tout cas, la vie les a séparés. Ils ont grandi. Il y en a un qui est devenu juge et il y en a un autre qui est devenu bandit. Voilà. Et un jour, ils se sont retrouvés dans une salle de tribunal, pas une église, une salle de tribunal. Et il y en avait un qui était le juge, donc, et un autre qui était l'accusé, et qui risquait très très bien d'être condamné. Le jugement a commencé, et puis alors les parties se sont présentées, ont plaidé chacun, et puis arrive au dernier moment, le juge doit rendre son verdict. Il a reconnu son ami, mais lui n'a pas été reconnu. Le juge a reconnu, mais le coupable, l'accusé n'a pas reconnu le juge. Peut-être à cause de la perruque de l'époque, la tenue, j'en sais rien, mais en tout cas, il ne l'a pas reconnu. Et le juge s'est dit, mais c'est mon meilleur ami. C'est quelqu'un que j'aime, je suis heureux de le revoir, mais à la fois, je suis juge. Et il y avait comme un conflit dans son cœur, à la fois l'amour et à la fois la justice. Et ce juge a commencé à réfléchir et puis il a dit, voilà ce que je vais faire, je vais le condamner. La faute de cet homme méritait une forte condamnation, une forte amende. Et si cet homme ne payait pas, c'était la prison à vie jusqu'à ce qu'il ait payé. Alors le juge commence à rendre son verdict. Voilà, monsieur, vous êtes condamné à temps. Et si vous ne payez pas, vous passerez votre vie, le restant de votre vie en prison. Puis il se lève, tout le monde se lève, la séance est élevée. Le juge fait le tour, il se change, il va vite dans la salle et il frappe sur l'épaule de son ami. Et lui dit, alors, ça va. L'autre, il ne le reconnaît pas. Puis d'un coup, il dit, oh, ça va, comment tu vas? Puis il se serre. Et puis d'un coup, il réalise que c'est le juge. Il dit, mais c'est toi qui m'as condamné. C'est toi. Il dit, ne t'inquiète pas. Et il l'invite. Il dit, viens avec moi, on va aller manger. Et ils vont manger. Et pendant qu'ils mangent, il lui dit, voilà, tu sais, moi, je suis juge. Je ne peux pas négocier la justice. Je représente la justice. Il me faut être juste. Alors, c'est pour ça que je t'ai condamné. Tu mérites ce que tu as reçu. Mais maintenant que j'ai fait justice, que j'ai déclaré ce qui était juste, rien ne m'empêche d'exprimer mon amour envers toi. Et alors il lui a tendu ce qu'il fallait pour payer sa dette. À la fois il a rendu un verdict juste, mais à la fois rien ne l'empêchait de payer à la place de son ami. Et Dieu nous aime tellement, il est dit que l'amour de Dieu dépasse toute notre imagination. Et alors à cause de son amour, il a voulu payer. Mais il a dit, je ne peux pas faire en sorte que tout le monde ait pardonné sans qu'il y ait paiement. Dieu est juste, plus juste que lui, il n'y a pas. Il est saint, il ne peut pas se tromper lui-même. Alors il a déclaré l'homme pécheur, tous les hommes sont pécheurs, on a tous menti, on a tous péché. Mais il a dit, rien ne m'empêche, maintenant que je les ai tous déclarés pécheurs, de payer à leur place. Et Jésus lui-même, le Fils de Dieu, s'est levé, il a dit, moi, envoie-moi, je vais aller payer pour eux. Le sang de Jésus, c'est le prix pour nos péchés. Comprenons que si Dieu nous parle, si Dieu nous interpelle, nous parle de notre péché, ce n'est pas parce qu'il veut nous embêter, c'est parce qu'il veut nous sauver. Il veut qu'on croie en lui et qu'on réalise que son amour a été tel qu'il a voulu payer à notre place en envoyant son propre Fils. Amen. Le sang de Jésus, c'est le prix pour nos péchés. Et troisièmement et dernièrement, le sang de Jésus est une marque. Le sang de Jésus est un repère sur nous, sur nos vies. Lorsqu'il a coulé sur nous, il veut dire quelque chose, ce saint. Et le testament annonçait une deuxième chose, entre autres. Il annonçait l'adoption de Dieu. On n'est pas simplement sauvé, pardonné, mais Dieu veut que nous devenions ses enfants d'adoption. Et lorsque son sang coule sur nous, il met en nous son esprit, et son esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On va le lire, hein ? Jean chapitre 1, évangile de Jean, au chapitre 1, et au verset 5, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. On continue au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, et quand il parle du sang, c'est le nôtre, mais de Dieu, de la volonté de Dieu. À tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, qui croit en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons des simples hommes vagabondants sur la terre, allant à tout va, suivant nos vices, nos passions, nos idées, nos raisonnements, mais il veut vraiment que nous devenions une famille, la famille de Dieu, les uns les autres, frères, sœurs les uns des autres. Il veut que nous devenions ses enfants. Et lorsque le sang de Jésus a coulé sur nos vies, a coulé sur nos cœurs, sur notre être, lorsque le sang de Jésus peut avoir toute son efficacité parce qu'on croit dans son efficacité, alors nous devenons enfants de Dieu. Comment je sais que la lumière, c'est bien Jésus? Eh bien, c'est parce que c'est lui qui l'a dit. On peut le voir dans Jean 9. Jean 9, au verset 5. Jésus parle et il dit, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » À tous ceux qui ont reçu la lumière, qui ont cru en son nom, Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. On est une famille. On est une famille, nous qui croyons. J'aimerais nous rappeler ce soir que son sang est comme une marque, un repère. C'est comme un point commun. C'est un point commun que nous avons les uns les autres auprès de Jésus, auprès de Dieu, et qui atteste, nous qui avons été rachetés par son sang, que nous sommes sa famille par adoption. Amen. Des enfants par adoption. Il y a un autre texte dans Éphésiens. Prenez-le avec moi si vous voulez. Sinon, je vous le lis. Éphésiens chapitre 1 et au verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Vous l'avez ? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Est-ce que vous savez combien ça coûte d'adopter un enfant de nos jours ? Cher. Des milliers d'euros. Il y a des frais de dossier. J'ai des amis, pasteurs, d'autres non-pasteurs, qui ont voulu adopter des enfants, qui ont adopté plusieurs enfants chacun. Ils ont vu qu'en France, c'était presque impossible, chose infaisable, à cause de la loi et des diverses complications. Mais à l'étranger, il y a des enfants qui meurent de faim, qui sont abandonnés dans les rues, qui vivent au milieu des chiens et des animaux. Et alors qu'ils ont cherché un petit peu, ils ont été touchés et ils ont mis leur candidature. Ils ont dû attendre des années. Ils ont dû attendre plusieurs années pour que leur dossier passe les uns après les autres parce que les pays, le gouvernement de ces pays-là, eh bien, donne droit à des adoptions par cuillerée, vous voyez, par petite mesure, tant d'adoptions par an ou par mois. Et petit à petit, ils voyaient leur dossier monter dans les priorités, arriver petit à petit devant. Ils ont dû attendre des années. Puis au bout d'un moment, on leur a dit, voilà, on a un enfant pour vous. Et ils ont dû encore attendre un rendez-vous. Il a fallu aller sur place, parce que les lois sont telles qu'il faut faire des voyages, il faut passer des semaines, et maintenant, à partir de maintenant, des mois là-bas. Un mois entier auprès de l'enfant, à nos frais. Donc il y a non seulement les frais de dossier, mais il y a en plus les frais de voyage pendant un mois là-bas. Et toutes sortes de choses. D'accord. Et on voit qu'il y a vraiment, ça coûte vraiment cher d'adopter un enfant. Ça demande un engagement, bien sûr moral, mais aussi financier. Et comme on ne veut pas être séparé longtemps de notre conjoint, eh bien on y va à deux. La première fois qu'ils ont adopté, c'était bien, ils ont payé pour deux pour aller là-bas. Mais quand ils ont adopté leur enfant, ils étaient trois maintenant. Et il a fallu qu'ils adoptent, qu'ils payent encore le voyage pour le troisième. Parce que si jamais vous passez les frontières sans avoir votre enfant avec vous, alors que vous l'avez adopté, on vous l'enlève à cause de la DAS. Il y a des choses comme ça. Toutes sortes d'engagements, mais financiers vraiment aussi. Ça coûte très cher. Et le sang de Jésus témoigne de notre adoption. C'est le prix qui a été payé aussi pour notre adoption. C'est une marque qui est sur nous. Jésus a payé cher et il est dit que son sang a été pour notre rachat. Dieu nous rachète par le sang de son Fils. Amen. Nous qui étions perdus, Dieu nous rachète. Alors que c'est lui qui nous a créés. Il aurait pu dire, mais vous êtes à moi, hein, de droit. Vous m'obéissez d'ailleurs. Puis même, il pourrait ne rien faire pour nous. Et pourtant, il a choisi encore de repayer, de payer à nouveau, pour nous avoir avec lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et dans la même notion du sang qui est comme une marque, il y a aussi dans 1 Jean chapitre 5, cette notion de protection. Nous sommes gardés par Dieu. Lorsque nous sommes ses enfants, Dieu prend soin de ses enfants. Bien mieux qu'un père ou une mère sur cette terre, Dieu est responsable et il prend soin de ses enfants. Dans 1 Jean chapitre 5 et au verset 18, il est dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Et verset 21, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Gardez-vous des idoles. Et il nous est rappelé là que si on a été racheté, si nous avons été lavés de nos péchés, il nous reste encore une responsabilité, celle de renoncer, de nous garder du péché. Bien sûr, nous ne pouvons pas dire que le sang de Jésus, que Dieu nous garde, nous protège, que c'est une marque de notre appartenance à Dieu, que Satan ne nous touche pas, ne nous embête pas, si jamais on reste et on aime le péché. Ça, c'est pas ce que le texte dit. Il faut faire attention. Mais je crois que quand on est enfant de Dieu, celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Vous le croyez? Alors vous n'avez pas à avoir peur. Ni du lendemain, ni même d'une puissance quelconque. Nous avons le témoignage d'une personne qui sort de la rue. Lorsqu'elle a voulu se donner au Seigneur, elle l'a fait de tout son cœur. Et alors ça a impliqué aussi l'abandon de sa vie dans la rue. Et de ses pratiques, de la vente de son corps dans la rue. Alors elle a voulu faire ce choix. Et la proxénète est venue, la mama comme on dit, la femme qui l'avait sous sa coupole, a commencé à lui dire « Mais si tu renonces à la prostitution, si tu renonces, je te tue. » Elle a dit « Moi, j'ai fait mon choix, c'est Jésus. » On a mis une arme sur sa tempe. Cette femme a mis une arme sur sa tempe pour lui dire « Si tu renonces, je te tue. » Elle a tenu bon. Elle a voulu lire la Bible, elle a voulu s'approcher de Dieu, elle a aimé la Bible de tout son cœur. Mais alors il a commencé à avoir des manifestations surnaturelles, démoniaques, occultes. Parce que le monde occulte existe. Si Dieu existe, si les anges existent, la Bible nous parle aussi des démons et du diable. Et il est ennemi du monde, il est ennemi des hommes. Seulement quand on est du côté du Seigneur, quand on a fait la paix avec lui, on peut être sûr qu'à cause de son sang qui nous a rachetés, à cause de l'amour de Dieu, Dieu nous garde de l'ennemi, à condition qu'on obéisse à Dieu, je le rappelle. Amen. Et ce sang est comme une marque, une protection, notre appartenance au Seigneur, à Dieu. On a un point commun, on est frères et sœurs de sang. Non pas coulant dans nos veines, mais qui nous a lavés de tous nos péchés. Le sang de Jésus, frères et sœurs de sang, par adoption, gloire à Dieu. Alors en conclusion, pour terminer, si Dieu a utilisé une image si forte que le sang dans sa parole, c'est quelque chose de fort. Certains tombent dans les pommes à la vue du sang. Si Dieu a utilisé cette image qui peut-être quelquefois peut nous répulser, peut nous embêter, c'est pour nous rappeler, je le crois et j'en suis sûr, que le péché ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas anodin. Le péché nous emmène en enfer. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché attire la colère de Dieu. Il nous faut renoncer au péché. Il nous faut crier à Jésus, dire « Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de moi, sauve-moi, toi qui as tout payé, je crois en toi, je veux que ton sang puisse me laver de tous mes péchés. Pardonne-moi, pardon pour mes péchés, Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de moi. » Et le Seigneur Jésus ne va pas tarder, comme il l'a fait avec ce brigand sur la croix, qui lui a dit « Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. » Il a confessé quelques secondes avant son péché en disant « Pour nous, c'est juste que nous mûrions sur la croix. » Sous-entendu, nos péchés nous condamnent. Mais lui n'a rien fait. Seigneur, aie pitié de moi. Et la réponse a été directe. Alors trois choses. Jean 19, 30 nous rapporte une parole de Jésus. Tout est accompli. Le sang de Jésus, c'est la preuve de sa mort. Tout est accompli. Pendant que Jésus versait son sang, il a dit « Tout est accompli ». Il est mort, son testament est ouvert et il est valable pour tous ceux qui sont prêts à y croire. Deuxième parole dans Luc 23, au verset 34, « Père, pardonne-leur, parce que le sang, c'est un prix qu'il fallait payer pour notre vie, pour notre salut. » Et Luc 23, 43, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà la parole qu'il a dit au brigand Seigneur Jésus. Parce que son sang, c'est une marque. qui fait qu'on ne reste pas simplement sur la terre à végéter, mais Dieu nous réunit comme une famille. Il nous prendra tous ensemble avec lui. Cette parole nous dit qu'il y a un paradis, il y a un ciel, il y a une espérance, où tous ceux qui auront cru en Jésus, qui auront réglé leur vie en fonction de ce testament, seront rassemblés par lui. Aujourd'hui, cette famille s'appelle l'Église. Et ce n'est pas un bâtiment, ce sont des personnes qui chacune représentent une pierre et qui constituent l'édifice de Dieu, l'Église de Dieu. Cette famille, c'est nous. Notre point commun, c'est son sang. Le sang de Jésus est comme une marque sur nous. Son sang nous couvre, et lorsque Dieu regarde à nos vies, il ne voit plus ce qu'on était. Mais il voit Jésus. Il voit ce que nous sommes devenus en Jésus. Il voit la vie de Jésus qui a été mise en nous. Il voit Jésus qu'il vit en nous, qui est entré dans nos cœurs, et qui règne, je l'espère, en nous, et qui dirige notre vie. Gloire à Dieu. Je vous le rappelle, le sang, c'est la preuve de la mort de Jésus. Ça représente la mort de Jésus. Le sang, c'est le prix qu'il fallait qu'il paye pour notre rachat. Et le sang, c'est une marque qui est un point commun et qui montre aussi à Satan que nous appartenons à Dieu. Nous ne sommes plus des enfants vagabonds, des orphelins, mais nous sommes des enfants de Dieu, rachetés par le sang de Jésus. Notre paix a coûté la vie à Dieu, à Jésus. Notre paix a coûté la vie à Jésus. Alors je termine avec ça. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants pour ce que Jésus a fait, pour son sang qu'il a versé à la croix, pour tous nos péchés. Le péché, ce n'est pas anodin. Le péché, ça mérite salaire. Le salaire, c'est la mort. Et Jésus a dû payer pour nous. Jésus a dû payer. Et il l'a fait de bon cœur, avec joie. Vous croyez que Jésus a rechigné pour aller sur la croix? Je crois que Jésus a supplié Dieu de ne pas mourir avant, dans le jardin de Gethsémané, pour qu'il aille jusqu'au bois de la croix. C'est écrit clairement dans Hébreux chapitre 7. Alors soyons toujours, toute notre vie, reconnaissants. Si nous savions ces choses, merci Seigneur qui nous les rappelle. L'art d'enseigner, c'est l'art de répéter, quelqu'un disait. Et ça nous servira peut-être pour quelqu'un qui nous posera la question autour de nous. C'est quoi ce sang? Il y a tant de violence, tant de choses. Oui, mais c'est le prix pour notre péché. Et si vous ne le saviez pas, soyez heureux d'apprendre que tout ce sang représente l'amour de Dieu pour vos vies. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ce que tu as payé, Seigneur Jésus. Vraiment reconnaissants parce que tu nous aimes et tu n'as pas hésité à donner ton Fils, notre Père. Tu n'as pas hésité à donner ton Fils pour qu'il meure à ma place, pour moi, Seigneur. Lui qui était saint, sans péché, Jésus qui a vécu une vie tout à fait sainte, Seigneur, dans la perfection. Il a résisté au diable, il a résisté au péché et il a donné sa vie pour nous. Son sang a une valeur pour moi, pour nous. Je te dis merci pour cette valeur, pour ce sang précieux, comme ta parole nous l'enseigne. Je veux te dire merci. Et si quelqu'un, ce soir, était à l'écart de ces choses, de cette bénédiction de ta grâce, qu'il puisse réaliser combien tu l'as aimé, Jésus, en montant toi-même sur le bois de la croix, en donnant ta vie, que ton nom soit béni, et que ces jours qu'il nous reste avant ton retour, ou avant notre départ, nous servent non pas à rester loin de toi, à soi-disant profiter de la vie, profiter de notre jeunesse, mais au contraire, à profiter de cette occasion qui nous est donné pour faire la paix avec toi. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.